Vous écoutez Quoi de Meuf ? Le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture toutes les trois semaines. Je suis Mélanie Wanga.
Je suis Clémentine Gallo. On est toutes les deux journalistes.
Cette émission, c'est une conversation à deux dans laquelle on discute aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna.
C'est parti. Bienvenue. Cette semaine, on va parler consentement et culture du viol. Donc trigger warning, si vos oreilles sont sensibles à ces sujets, mieux vaut s'abstenir.
Salut Clémentine, comment ça va ?
Ça va, d'autant plus que depuis que j'ai déménagé dans la très belle principauté de Seine-Saint-Denis, j'ai découvert qu'il y avait un magazine féministe à Montreuil, que je vous recommande, qui s'appelle La Voyeuse. Et le dernier numéro, donc c'est gratuit, parle d'une équipe de roller derby locale qui s'appelle les Nasty Pécheresses, que moi-même j'ai vu à l'occasion des championnats de France de roller derby.
D'accord.
Un grand événement. Et d'ailleurs, je me suis dit que j'aimerais bien en faire si je ne portais pas de lunettes et que je n'étais pas chétive de composition.
Non, mais c'est bien, c'est un bon moyen de relâcher son énergie.
C'est ça. Aller taper d'autres meufs en roller. Et toi, comment ça va ?
Eh bien, écoute, moi, ça va. Bon, moi, c'est un peu moins fun, mais du coup, je tiens quand même à dire que je suis retournée voir ma psy parce qu'on m'a envoyé une question sur la thérapie cognitive, figure-toi, dans les DM de Quoi de Meuf.
Incroyable. Dit,
voilà. Et du coup, je tenais à te dire que ça marche toujours. Ça faisait 2 ans que j'avais arrêté de la voir, mais voilà, en fait, parfois, j'ai l'impression que la thérapie, c'est quand même la meilleure raison de dépenser son argent, quoi.
Ouais, c'est clair.
Ouais. Parce que c'est vraiment, enfin, ça donne le luxe d'avoir le regard extérieur de quelqu'un, en fait, sur sa situation. Et aussi, c'est le fait d'avoir quelqu'un qui nous dit ce qu'on sait déjà, mais qui nous le dit. Je sais pas, moi, ça me rassure, en fait, dans ma manière d'envisager les choses. Et du coup, c'est vraiment cool. Et déjà, au bout de 2 séances, ça m'aide beaucoup. Donc voilà, merci la thérapie cognitive. Et big up à ma psy qui écoute le podcast Quoi de Meuf de temps en temps.
Oula, moi, j'espère que la mienne n'écoute pas.
Alors moi, je lui ai pas conseillé, elle m'a trouvée toute seule. Donc voilà.
Et sinon, je voulais aussi remercier cette personne qui m'a reconnue quand j'étais bénévole au compost de Montreuil.
Clémentine, la Rihanna de Montreuil.
Ouais, c'est ça, la Rihanna des déchets. Et donc, il m'a reconnue à la voix après avoir écouté le podcast.
D'accord, donc elle t'a dit, excuse-moi, c'est toi ?
Oui, elle m'a dit, je reconnais cette voix. Incroyable.
Merci à toi, auditrice. Alors, ce sont des termes qu'on entend souvent, très souvent même en ce moment, le consentement et la culture du viol. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est vrai qu'entre le super orgasme mutuel et l'agression sexuelle dans une ruelle sombre, il y a de nombreuses nuances qu'on va essayer d'explorer aujourd'hui. C'est vrai qu'en 2018, on a enfin commencé à parler, comme tu disais, de consentement et de culture du viol, qui étaient quand même jusqu'à présent des concepts dont presque personne, enfin, en dehors des milieux militants, n'avait entendu parler, même si bon, l'idée ne nous est pas étrangère, évidemment. J'ai déjà raconté ici cette anecdote, mais comme j'ai Alzheimer, je ne vais pas me priver de la répéter. Donc, il y a quelques années, j'avais eu un débat public extrêmement houleux sur Twitter avec un journaliste des Inroc, que je ne nommerai pas, qui disait que le consentement, en fait, c'était une manière pour les féministes d'empêcher les mecs de jouir.
Merci. Bah oui, c'est notre objectif principal.
C'est ça. D'ailleurs, je lui ai rappelé que la contraception, c'était grâce aux féministes, en fait, en partie. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il pouvait jouir tranquillou. Ouais. Donc, merci. Et il disait que lui, il aimait bien être surpris au lit par sa copine et qu'il n'avait pas envie de signer un papier avant d'avoir un rapport. Donc, alors que personne n'a jamais demandé de signer un papier.
Personne n'a jamais fait ça, quoi.
Donc, bref. Lol.
Ouais.
Alors, de quoi on parle du coup ?
De quoi on parle, ouais, parce que quand même, on va refaire une petite définition, puisque c'est assez nébuleux comme concept pour certains. Selon le Larousse, la définition du consentement, c'est l'action de donner son accord à une action, à un projet. Donc, acquiescement, approbation, assentiment. Donc, dire oui, quoi. Et ça nécessite donc une action de la part des deux participants. L'un demande, l'autre exprime son accord. Mais alors, où est le problème ? Où est la couille dans le potage, pourrait-on dire ?
Bon appétit. Et c'est quoi l'actualité en fait autour de ces questions-là ?
L'actualité, c'est notamment le projet de loi qui a été adopté en mai et qui est examiné en juillet sur le consentement des mineurs. L'article 2 fait polémique parce qu'il retient finalement pas le non-consentement automatique pour tout mineur de moins de 15 ans en cas de relation sexuelle avec un adulte, ce qui est quand même un peu improbable.
Ouais.
Les opposants au texte craignent que désormais des viols sur des mineurs de moins de 15 ans puissent être qualifiés de délits et non de crime.
Ah.
La distinction, c'est aussi important sur un plan symbolique, parce que si un viol est requalifié en délit d'atteinte sexuelle, il sera jugé au tribunal correctionnel et non aux assises face à un jury populaire. Donc il y a eu des débats, des pétitions, et les associations féministes réclament l'introduction d'un âge minimal de consentement à l'acte sexuel avec un adulte, ce qui est le cas dans de nombreux pays. En fait. Donc on ne comprend même pas pourquoi ça n'existe pas en France déjà, tu vois.
C'est-à-dire qu'en France, on régresse et à l'inverse, dans certains pays où ça progresse, par exemple en Suède, la loi vient d'être renforcée dans l'autre sens. Donc elle a été votée en mai, elle sera appliquée à partir du mois de juillet. Et donc on demande désormais le consentement explicite. C'est-à-dire que maintenant, il peut y avoir viol par négligence. Donc user de violence ou profiter de l'état de faiblesse de la victime ne sera plus un prérequis indispensable pour être condamné. Le sexe doit donc être volontaire, sinon c'est illégal. La ministre de la Justice, Morgan Johansson, a déclaré « Cela devrait rentrer dans les têtes de tous les garçons et les hommes en Suède, que c'est comme ça que ça se passe, que vous devriez recueillir le consentement de la personne avec qui vous voulez coucher. »
Féminazie.
Ouais.
Elle va nous empêcher de faire du sexe.
Alors en France, selon la loi, un rapport sexuel est un viol s'il y a violence, menace, contrainte ou surprise.
Ça veut dire beaucoup de choses tout
ça. Oui, c'est très très flou en fait, parce que le consentement ou non-consentement là-dedans est parfois difficile à prouver. Ça veut dire quoi en fait? La contrainte, c'est une contrainte psychologique, c'est une contrainte physique. Et si on n'arrive pas à la prouver, est-ce que ça voulait dire forcément qu'on avait envie?
C'est ta parole contre celle de quelqu'un d'autre.
Exactement. Et puis il y a aussi la question de savoir si la personne se défend. Si elle le défend pas, ça veut dire qu'implicitement, elle le voulait, en fait, quelque part. Ce qu'on a vu aussi avec les manifestations en Espagne, où les femmes disaient « si tu te défends, on te tue, et si tu te défends pas, bah, c'est de ta faute, quoi ».
Ouais, lose-lose.
Voilà, exactement. Et en plus, ça prend pas en compte le sentiment de sidération, qui est pourtant extrêmement commun, en fait, dans ce genre de situation. C'est-à-dire le fait de ne pas réagir, tellement on est surpris et tellement on croit pas à ce qui est en train d'arriver. Donc Muriel Salmona, c'est une psy qui travaille sur la mémoire traumatique, parle de sidération psychique. C'est un phénomène de dissociation qui explique aussi des souvenirs flous chez les victimes et le fait qu'on ne se débatte pas.
Et c'est là qu'il va y avoir en fait un mécanisme exceptionnel de sauvegarde qui va faire en fait disjoncter le système, puisqu'il faut absolument interrompre cette surproduction d'hormones de stress pour éviter un risque vital.
Et est-ce que toi, tu as vu le docu « Sexe sans consentement » ?
Alors, j'ai vu le début, mais je ne l'ai pas regardé jusqu'au bout, parce que c'est un petit peu difficile pour moi, mais vas-y.
Donc, il a été diffusé dans Infrarouge, sur France 2, il y a quelques mois.
Ouais.
C'est Delphine Dilly et Blandine Grosjean qui l'ont réalisé. Et c'est vrai que ça a permis de commencer cette conversation en fait en France sur le sujet du consentement. Elles ont recueilli des témoignages donc de jeunes femmes qui ont été agressées chez elles, dehors, en soirée, un peu partout. Elles racontent soit que quelqu'un a été trop loin avec elles, soit qu'elles n'avaient rien demandé et que quelqu'un les a touchées sans leur accord.
En fait, il y a un moment où tu te dis c'est pas grave, vaut mieux faire ça vite, après tu t'en vas, oublier que s'opposer en fait.
Et du coup, on va parler de nos expériences personnelles sur le sujet.
C'est
Clémentine,
gay.
Vas-y.
Sans entrer dans des détails sordides, moi je dirais que de manière générale, comme d'habitude, c'est toujours la victime qui culpabilise.
Ouais.
Donc on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on fait des trucs qu'on n'a pas envie de faire quand quelqu'un est particulièrement insistant en face? Et moi personnellement, avec plusieurs amis qui ont fait de vagues tentatives, j'ai dit non et ça s'est arrêté là, ouais. Heureusement, parce que je pense que si ça s'était pas arrêté, on ne serait plus amis, c'est
ouais.
sûr.
Ouais.
Mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de céder un peu par usure et de me rendre compte seulement bien plus tard que c'était un énorme problème en fait.
Ouais.
Et toi alors?
Moi il y a deux axes en fait. Je pense que j'ai envie de dire énormément. La majorité des femmes ont vécu ces situations en fait où elles disent oui sans avoir vraiment envie pour plusieurs raisons qu'on va développer.
Oui, c'est la norme en fait.
Voilà. Mais alors pour moi il y a deux axes dans tout ça. C'est que il y a vraiment une question d'éducation et de socialisation. Comme j'ai déjà dit aussi dans le podcast, c'est que la passivité c'est une qualité encouragée chez les filles dès leur plus jeune âge, et il faut être très rebelle pour ne pas être conditionnée en fait dans ces situations. Et donc moi j'ai vraiment l'impression d'avoir été éduquée comme ça, quoi.
La passivité et la politesse.
Voilà, exactement.
C'est pas poli de dire non, donc bon.
Je ne vais pas vexer la personne. Et du coup, moi, je sais que j'ai encore aujourd'hui, j'ai du mal à exprimer ce que je ressens. Et ça me prend vraiment un effort conscient très soutenu, quoi. Mais du coup, je m'y tiens. C'est quelque chose où je me suis fait une promesse de m'y tenir et de toujours dire ce que je ressentais. Parce que je puis me retrouver, en fait, dans ces situations. Et le deuxième axe, pour moi aussi, c'est que en réalité, partout dans le monde, la phrase de l'autrice Margaret Atwood est tristement vraie. Donc, je ne sais pas si tu la connais, c'est dans le cadre des relations sexuelles, voilà. Les hommes ont peur que les femmes se moquent d'eux et les femmes ont peur que les hommes les tuent.
Oui.
Donc, c'est pas les mêmes enjeux, en fait. Hein.
Margaret Atwood, donc, c'est l'autrice de La Servante écarlate.
Voilà, exactement. On parle souvent de bad date, de mauvais rendez-vous quand on fait référence à des situations bizarres où on n'a pas vraiment envie de faire du sexe, mais on a peur d'être jugé, de décevoir ou d'irriter. Mmh. Mais alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si c'est juste des mauvais rendez-vous qui peuvent quand même amener aux larmes et à une sensation de dégoût de soi, pourquoi c'est principalement les femmes qui parlent de ça en fait et qui le vivent comme ça ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à creuser à ce niveau-là ?
Oui, puis surtout... C'est vrai que c'est surtout les femmes qui se censurent et qui préfèrent ne rien dire plutôt que de créer un conflit. Et c'est vrai que dans l'autre sens, on a peu ce genre de situation où les hommes se sentent pressurisés. Évidemment, ça arrive. Mais...
Ça arrive, mais je pense que c'est moins encouragé. Enfin, on va dire les comportements hommes-femmes sont très différents selon ce que la société encourage dans ces situations.
Alors moi, de mon côté, j'ai fait une petite liste de raisons imaginaires et d'arguments fallacieux qu'on se dit dans notre tête. Dans ce genre de situation. Alors, on a envie de faire plaisir, on n'a pas envie d'être mal vu, on n'a pas envie de passer pour une allumeuse, ni pour une frigide. On est tétanisé, on est prise par surprise, on n'ose rien dire, on dit quelque chose mais ça sert à rien. On laisse tomber parce que autant le faire, ça ira plus vite plutôt que d'avoir un débat sans fin. Et on n'a pas envie de se faire tuer, effectivement.
Ouais. Et d'ailleurs, en plus, c'est même pas une peur qui est irrationnelle, parce qu'il y a énormément de femmes qui meurent comme ça dans le monde. Quoi. D'ailleurs, le podcast américain The Heart...
Welcome to The Heart. I'm Caitlin Prest.
Qu'on adore.
Qu'on adore chez Nouvelle J'écoute, consacre une série d'épisodes au consentement. Donc, la présentatrice Caitlin Prest raconte plusieurs expériences qui ont dépassé les bornes, mais elle ne s'en est pas tout de suite rendue compte, ce qui arrive souvent en fait. Mmh. Donc par exemple, un mec qui met sa main entre ses cuisses au ciné alors qu'elle a rien demandé, un pote qui la force à moitié, un mec très insistant qui veut une pipe dans la voiture. Alors elle finit par demander directement à des gars si ça arrive à autant de filles. C'est que la plupart des mecs doivent le pratiquer, même sans s'en rendre compte. Et donc, qu'est-ce qui leur passe par la tête ? Pourquoi ils le font ? Et en fait, la réponse, c'est parce qu'ils le peuvent. Bien souvent, en face, la personne ne se plaint pas et ne va pas les dénoncer. Et du coup, ils en profitent. Et donc, on peut faire une petite liste inversée de ce que tu disais. Donc, c'est « j'ai trop envie »,« j'ai mal aux couilles », les « blue balls ».
Oui, c'est ça, une grande légende urbaine.
Voilà, ça se voit qu'elle a envie aussi. Elle dit non, mais en fait, elle veut dire oui. Et du coup, on pense juste à son objectif, tremper son pinceau, se vider les couilles. On pense à rien, on est en mode robot en fait. Et donc, quelles que soient les raisons ou les excuses invoquées, quoi qu'il en soit, il y a un problème en fait qui mérite d'être pointé quoi.
Je trouve ça très fort. Enfin, je trouve qu'on a rarement entendu les hommes en question s'expliquer sur cette question-là.
Ouais, qu'est-ce qu'ils pensent du consentement ? Qu'est-ce que ça veut dire pour eux ?
Ouais, enfin, et encore là, dans le podcast, c'est des mecs qui reconnaissent qu'il y a eu un problème. Je pense que pour la plupart, ça ne les effleure même pas.
Ouais.
Nous, de notre côté, en 2018, on a un peu fait notre exégèse. Est-ce qu'on a dépassé les bornes ? Des fois, sans doute. Et on était un peu persuadés que grâce à MeToo, ce serait le début d'une grande révolution sexuelle où tout le monde allait se remettre en question. Mmh. Je ne sais pas, on va voir. Donc on va écouter Raphaël qui nous a envoyé son témoignage et qui raconte l'effet que MeToo a eu sur ses ex.
Je suis obligée de réfléchir au consentement. Ces derniers temps, j'ai des mails d'ex-relations qui me demandent si jamais ils ont bien respecté mon consentement pendant notre relation. Et en fait... Le problème que j'ai, c'est que les mails viennent de mecs avec qui j'ai pas eu de problème. Du coup, ça veut dire qu'en fait, tous ceux avec qui j'ai eu des problèmes, ben, eux se remettent pas en question. Alors pourquoi ? Est-ce qu'ils se sentent juste pas concernés ? Est-ce qu'ils pensent que le consentement, c'est pour les autres ? Et tous ceux qui se sentent concernés, c'est ceux qui ont déjà fait la démarche ? Mais du coup, moi, le problème que j'ai eu vis-à-vis de mon consentement, il est où ? Ben, il est dans le fait que souvent, je me rends compte que mon corps peut dire oui à un moment où ma tête, ma bouche, ils disent non. Et il y a des mecs qui choisissent de suivre mon corps et pas ma tête. Et là, pour moi, il y a une vraie problématique. Et c'est là qu'il faut essayer de redéfinir le consentement. C'est quoi qu'on suit ? C'est le corps ? C'est la bouche ? C'est ce qu'on dit ? C'est quoi ?
Alors, moi, j'aurais bien aimé qu'un ex se pose la question et vienne m'en parler. Mais bon, j'attends encore à l'heure actuelle. N'hésitez pas à me contacter.
Les TM sont ouverts.
C'est ça. C'est vrai que moi, j'en ai surtout discuté avec d'autres filles. Et je me demande toujours si les mecs en parlent entre eux, en fait, et se disent « Mais merde, moi aussi, parfois, voilà, j'ai dépassé les bornes. » Est-ce que toi, tu as eu des nouvelles ou tu en as parlé avec ton conjoint ?
J'ai pas eu de nouvelles, mais effectivement, j'en ai parlé avec mon mec. J'ai lancé le sujet et c'est un peu monté super vite dans les tours parce
que
il y a eu un clash en fait, un mini clash, mini débat. Parce qu'il a commencé directement dès que j'ai prononcé le mot consentement. Il m'a dit oui, mais la tribune descend avec Catherine Millet. Et en fait, il y a toujours des femmes comme elle qui vont dire qu'elles préfèrent pas verbaliser parce que ça tue le charme, ce fameux charme. À la française, en fait.
Sauf que c'est une exception, c'est pas la règle, en fait, la tribune descend.
Bah ouais, c'est ce que je lui ai dit. Et puis lui, en fait, ce qu'il disait, c'est que c'est pas 100% des femmes qui ont fait l'amour sans consentir dans leur vie. Et il m'a reproché de parler à la place des autres, en fait.
Oui, mais en fait, on n'a pas de chiffres pour l'instant. Ça, donc voilà, c'est difficile
déjà,
de dire.
Moi, tu vois,
nous, on peut déduire que...
Moi, en parlant avec mes amis, voilà, c'est ce que j'ai déduit. J'ai quand même 100% de mes copines qui me disent « Ouais, j'avais pas trop envie, mais bon, je l'ai fait quand même, quoi. » Donc, effectivement, peut-être, ça veut pas dire que c'est 100% des femmes dans le monde entier, mais ça mérite quand même de se poser la question, tu vois. En fait, ce que j'aime pas, c'est vraiment cette tendance à fermer le débat et à dire « Tu peux pas parler à la place des autres. » On en revient un peu à ça. Les féministes, vous voulez toujours vous mêler de ce qui se passe dans la chambre des gens et tout. Non, mais on peut quand même pointer du doigt un problème, quoi.
Oui, puis surtout, à prendre une exception pour infirmer une règle, en fait, ce n'est pas logique.
Bah ouais. Et du coup, il me disait en gros qu'on peut pas généraliser. Donc moi, je suis pareil, je suis montée un peu aussi. Ça a chauffé. Mais à la fin, il a quand même admis que c'est important, en fait, de quand même toujours essayer de discuter de ces sujets avec ses partenaires potentiels.
Oui, la communication, ce n'est pas que pour les femmes, c'est aussi pour les hommes.
Exactement. Alors, il avait l'air aussi quand même d'être préoccupé par le fait que culturellement, et je pense que c'est vrai, on enseigne que c'est toujours aux hommes de faire le premier pas et lui, il pense qu'il y a un lien avec ce problème du consentement, c'est-à-dire qu'en fait, on enseigne un peu aux hommes de toujours pousser, toujours aller de l'avant, toujours demander, toujours faire le premier pas. Et au final, on n'enseigne pas ça aux femmes, mais en plus, on enseigne aux femmes à dire oui. Donc, voilà. Problématique.
Ouais, il faut que les deux personnes soient actives. Et alors revenons à nos moutons sexuels. On voulait aussi parler de la zone grise, qui serait donc une zone d'incertitude sur un rapport sexuel forcé ou non. Dans le New York Times, on peut lire « Une relation sexuelle qui pourrait ne pas être vue comme une agression sexuelle, mais qui constitue quelque chose de bien plus glauque et de bien plus perturbant qu'un simple rendez-vous foireux. » Donc, il y a eu un article de BuzzFeed France, quand ça existait encore, RIP, qui explique pourtant que c'est en fait un concept et une expression assez dangereuse parce qu'elle-même est floue et qu'elle a tendance à excuser des comportements abusifs. Donc, en fait, la zone grise, ben, ça n'existe pas. Ça ne veut rien dire. Et d'ailleurs, Ovidie, qui est réalisatrice et autrice, explique qu'elle-même refuse de l'utiliser. Donc on va faire comme elle, en fait. Abstenons-nous.
Alors il y a quand même un cas encore plus particulier de non-consentement, qui est le viol conjugal.
Ouais, qui est quelque chose dont on parle juste jamais.
Ben ouais, mais alors il y a certaines personnes qui tombent encore des nues hein, quand tu leur expliques le concept, quoi. Que à partir du moment où on est en couple, où on est marié, on est ensemble depuis longtemps, et que la personne est au lit avec vous, ça veut pas dire qu'elle veut tout le temps coucher avec vous et qu'elle doit tout le temps coucher avec vous.
Breaking news, sachez-le.
Et du coup, c'est vrai que tout le monde s'est quand même déjà forcé pour faire plaisir à son conjoint. Et c'est aussi quelque chose qu'on lit souvent dans les magazines féminins. Bon, même si vous êtes fatiguée après votre journée de 14 heures, vous pouvez bien faire un effort quand même.
Oui, pour maintenir la paix du couple, comme si ça reposait uniquement sur nos épaules.
Voilà, alors bon, forcer la main, c'est quand même du viol conjugal, quoi. Mais moi, ce qui me tue, c'est vraiment les gamines sur les réseaux sociaux qui disent que c'est pas du tout un problème pour elles parce que c'est un devoir. Mais
quoi?
Bon, on n'est plus en 1832, s'il vous plaît. Et qu'elles le font parce que c'est un droit que leurs mecs ont sur elles, quoi.
Hein?
C'est au secours, j'ai vu ça, enfin vraiment, mais des gamines de 17 ans qui font des tweets avec 50 000 retweets, quoi. Et j'étais là, genre, waouh!
Oula, d'accord. Ouais. Bon, et pour comprendre aussi ce que sont les luttes féministes, on est d'accord qu'il faut reconnaître l'existence du patriarcat. Et dans le cas présent, pour comprendre le consentement, il faut aussi comprendre ce que c'est que la culture du viol et reconnaître qu'elle existe, puisque ça donne à la fois un contexte, un système qui permet de comprendre ces actes qui restent juste des choses méchantes, voilà, isolées.
Ah, ça me rappelle la bonne époque sur Twitter où il y avait des gens qui tweetaient « La culture du viol, ça va pas, moi je suis pas un violeur, vous la gardez votre culture du viol !»
Not all men. Donc la culture du viol, c'est en partie le sentiment pour les hommes de croire que tout vous est dû. Donc c'est le cas des incels, des incels, les célibataires involontaires. C'était le cas du tueur de Toronto.
Voilà, donc on rappelle, c'est juste des jeunes quand même qui sont sur Internet et qui ne comprennent pas pourquoi les meufs veulent pas sortir avec eux. Qui font eux-mêmes des classifications entre les meufs.
Ouais. Et qui les tuent ensuite.
Exactement.
Et donc c'est une idéologie de la conquête, de la prédation. C'est ce que disent aussi les pick-up artistes. Donc c'est des hommes qui donnent des cours de séduction. Et c'est aussi le fait de tout faire pour arriver à ses fins, parce que forcer la main est souvent bien vu dans une culture viriliste. Donc la culture du viol, c'est aussi ne pas prendre en compte les violences sexuelles, ne pas les prendre au sérieux, les banaliser, et réduire le viol à un inconnu dans une ruelle sombre et pas un ami d'ami à une fête, l'insertion d'un doigt ou d'un objet malvenu. C'est aussi faire des blagues sur le viol.
Au dépend des victimes.
Voilà, faire peser aussi la responsabilité sur la victime, le fameux « t'étais en jupe ». Donc le victim blaming de base. C'est tout ça en fait, la culture du viol, c'est ce qui crée un climat nauséabond propice au dérapage. Je mets des gros gros guillemets.
50 guillemets de chaque côté.
Et alors récemment dans l'actu culturelle, on a eu moult exemples de ça.
Alors un exemple typique de non-respect du consentement, c'est Louis C.K., le comique qui était jusqu'ici porté au nu. Donc on rappelle, il a demandé à des femmes... Et il leur a montré sa bite. Voilà, dans un cadre professionnel.
C'était pas la peine de demander.
Voilà, on répète, hein, il n'était pas en relation amicale ou amoureuse avec ces personnes, c'était ses collègues. Et même dans le cas où il avait été en relation avec elle, ça n'excuserait pas son comportement. Parce qu'en gros, il sortait sa bite et puis il se branlait devant elle. Donc on rationalise ce qu'a fait ce mec en disant « Oh, ça va, c'est pas un violeur ». Mais en vrai, les femmes, elles n'ont pas à subir les bites des mecs et à les éviter telles des mines antipersonnelles dans leur environnement de travail, quoi. Donc ça devient du harcèlement. Et nous, on passe pas notre temps à exhiber notre vagin, tout va.
Encore heureux. Et sinon, il y avait aussi le cas, après Louis C.K., le cas épineux d'Aziz Ansari, qui est un comédien féministe, a priori, auteur de la série Master of None sur Netflix. Lui a été accusé dans un article anonyme sur le site babe.net d'avoir forcé la main à une fille lors d'un rendez-vous. Donc il n'y a eu ni violence ni insulte, mais en fait, elle lui a fait comprendre qu'elle ne voulait pas aller plus loin et qu'elle voulait juste... passer la soirée à traîner ensemble, voilà, et lui aurait été super insistant et n'aurait pas pris en compte ce qu'elle essayait de lui faire entendre.
If you say you're a feminist, then fuck like a feminist. And if you don't want to do that, take off your fucking pin because we are not your accessory.
On en a beaucoup parlé, mais en même temps, je trouve que l'affaire a été un peu prise par-dessus la jambe. Genre, ah, vous exagérez, il ne l'a pas assassinée, violée violemment, c'était juste un malentendu. Alors que pour moi, c'est vraiment un exemple parmi les plus parlants, c'est-à-dire que c'est dans ce genre de cas assez ambigu qu'on se reconnaît tous et toutes, en fait. Et pour moi, il faut absolument avoir un débat, en fait, sur ce genre de cas, plutôt que de dire que c'est pas un problème.
Bah, complètement, ouais. Il y a aussi un cas d'étude, un lieu où tout ça est en train d'évoluer super vite, c'est les campus américains, au lieu de culture du viol.
Ouais.
Il y a une jeune étudiante qui s'appelle Emma Sulkovitz qui a traîné son matelas à Columbia il y a quelques années parce qu'elle s'était plainte d'avoir été violée et la fac n'avait rien fait. Et donc du coup, le New York Times a mis en ligne récemment une infographie avec 45 témoignages sur le consentement à la fac. Donc voilà, on mélange les beuveries, l'inexpérience, les préjugés et on obtient les campus.
Ouais.
Donc voilà, et effectivement, parmi les témoignages, on entend des trucs du genre que nous-mêmes, je pense, on a déjà entendu. Hein. Je me suis sentie tellement mal de me retrouver dans cette situation que je l'ai fait quand même. Ce sera fini dans 2 minutes, je me suis déconnectée et j'ai regardé le plafond. Waouh, voilà. Donc je veux juste ajouter que tant que le sexe, du point de vue masculin, c'est vu comme une récompense, comme un truc à conquérir à des femmes, on aura un problème, Houston.
Ouais. Et d'ailleurs, une autre journaliste du New York Times, Vanessa Grigoriadis, a mené l'enquête dans les campus. Elle en a tiré un livre qui s'appelle Blurred Lines, Rethinking Sex, Power and Consent on Campus. Et elle raconte comment les autorités universitaires gèrent ou pas la crise des agressions sexuelles en ce moment. Et ce qui est bien, c'est qu'elle répond aussi aux critiques et aux stéréotypes selon lesquels, avec toutes ces nouvelles mesures plus contraignantes, il y aurait une panique sexuelle, c'est-à-dire que plus personne n'aurait de rapport sexuel.
Ouais, bien sûr.
Elle dit que c'est la manière en 2017 de dire que les femmes sont frigides, donc c'est très agréable. comme si c'était une forme de maccartisme sexuel pudibond. En fait, elle décrit une nouvelle révolution sexuelle qui est en train d'advenir, un vrai bouleversement culturel, puisque la nouvelle étiquette, c'est plus « no means no », mais « yes means yes ». Mais bon, pour l'instant, elle dit que c'est trop tôt pour tirer des conclusions et savoir si ça fonctionne ou pas. Donc, il faut sans doute attendre pour savoir. Est-ce qu'on a des conseils à donner pour respecter le consentement de votre plan cul ou de votre conjoint?
On a toujours des conseils chez Quoi de Meuf. Alors, conseil numéro 1, surveillez le body language de votre partenaire. Si la personne dort ou est figée, il y a sans doute un souci.
Effectivement. Si vous avez un doute, bah, posez une question. En fait, c'est pas grave d'avoir l'air con ou conne. C'est mieux que de violenter quelqu'un et d'être hors la loi.
Ne pensez pas qu'à vous et à votre plaisir, les autres existent.
Et c'est bien aussi de s'assurer à toutes les étapes, si c'est nécessaire. Est-ce que la personne a envie d'être embrassée, d'être caressée, d'être pénétrée, de changer de position?
Il faudrait aussi apprendre très tôt le consentement à l'école. Madame, c'est quoi le consentement? Et faire visionner la petite vidéo, le consentement expliqué aux enfants.
C'est sur YouTube.
Personne ne doit te dire ce que tu fais de ton corps, sauf toi.
Donc les parents doivent expliquer aux garçons l'importance de demander, de s'assurer que la personne en face est d'accord dans le corps et dans l'esprit, parce que c'est ni le porno ni les stéréotypes virilistes qui vont lui apprendre ces choses-là, malheureusement.
Et de son côté, la chroniqueuse Maya Mazorette, elle parle du consentement enthousiaste. Elle dit que c'est pas juste une contrainte chiante de plus, mais que ça peut être excitant en fait, de se murmurer des trucs à l'oreille et de se demander la permission. Et elle écrit « Qu'y a-t-il de si incroyablement sexy dans nos silences ?»
Le moment pop culture.
Bah alors, heureusement pour nous, la pop culture regorge de violeurs et agresseurs sexuels en tout genre. Donc, on va pouvoir citer quelques exemples.
Présentés de manière romantique, si possible. Alors, moi, je me souviens d'un film des années 80, un classique de John Hughes qui s'appelle 16 Candles, dans lequel le geek de l'école est laissé tout seul avec la plus belle fille du lycée un soir. Et le lendemain matin, c'est pas très clair s'il l'a embrassée ou s'il l'a violée, mais en tout cas, il se vante de ses exploits alors que cette fille dormait et bourrée.
You are such a liar.
We'll see about that, my man. By night's end, I predict me and her will interface.
Donc c'est quand même un énorme problème.
Les années 80 étaient très relax sur ces sujets.
Ouais, c'est ça, très détendu du slip. Et aujourd'hui, l'actrice principale, Molly Ringwald, a dit qu'elle trouvait ça très choquant.
Alors moi, j'ai envie de parler de Chuck Bass, l'affreux de Gossip Girl, donc une série très connue des années 2000 qu'on a tous regardé. Alors oui, Chuck Bass, il portait des costumes Hugo Boss et il était charismatique, mais rappelons quand même qu'il a vendu sa petite amie Blair pour obtenir un hôtel.
Trop romantique.
Voilà.
Bad boy.
Et qu'il a agressé sexuellement Jenny, la petite sœur de Dan. On peut souligner que l'acteur qui l'interprète, Ed Westwick, a été accusé par 4 femmes de multiples viols. Donc le parquet de Los Angeles a ouvert une enquête à son encontre. Donc quand la réalité rejoint la fiction, voilà.
C'était un personnage qui disait qu'il avait toujours des besoins irrépressibles. Donc ouais. Voilà, il faisait jouer ce côté
mais
bestial.
Mais c'est surtout que la série le romantisait à fond,
complètement.
Quoi.
En y réfléchissant bien, je sais exactement ce qu'il te faut. Et je sais comme tu aimes que ce soit fait.
C'est genre, toutes les filles étaient là, genre, oh, Chuck Bass, quoi, au secours.
De mon côté, il y a une autre série que j'aime beaucoup, qui est une web-série norvégienne qui s'appelle Scam. Il y a eu une VF, pas totalement réussie.
Scameux.
Non. Et juste Scam. Et donc, dans la VF, Charles, le beau gosse du lycée, est très sûr de lui. Il a une phrase assez glaçante pour se la péter auprès de ses potes. À propos des filles, il dit « Leur nom est un oui en attente ». Alerte rouge.
Oh mon Dieu. Voilà. On se rappelle aussi toutes et tous de la série Girls de Lena Dunham et de ses nombreuses scènes hashtag malaise, comme on dit. Donc, y a notamment une scène de la saison 2 où l'ex de l'héroïne Anna, Adam, partage un moment particulièrement dérangeant avec sa nouvelle petite amie Natalia, qui est incarnée par Shiri Appleby, qui maintenant joue dans la série Unreal. Donc c'est très graphique cette scène. Hein. Il lui demande de ramper au sol à 4 pattes, il lui fait un cuni alors qu'elle dit non, et il se masturbe sur elle alors qu'elle veut pas. Donc la scène a provoqué un tollé et moult articles d'analyse, mais l'équipe de la série ne semble pas du tout avoir pensé qu'il y avait un problème. Lena Dunham, elle a dit « Quand les gens ont eu cette réaction, j'ai pensé « Attends, j'ai été violée et c'est pas ce qu'on ressent quand on est violée. Cette scène, elle est basée sur une interaction que j'ai vécue avec quelqu'un pour qui j'ai ressenti encore longtemps après de l'amour, parce que la sexualité humaine, c'est complexe.
» C'était peut-être une relation toxique.
Peut-être. Alors la scène date de 2013. On peut peut-être aussi penser qu'il y a eu un changement des mœurs entre-temps. Mais moi, je pense surtout que la scène ne comprend tout simplement pas ce qu'elle veut raconter, en fait, son sens. Parce qu'on le voit après, parce que le personnage de Natalia, il est très choqué. Et nous, en tant que spectateurs, on sent qu'il y a un problème. Alors dire, c'est « Oh là là, c'est juste une mauvaise expérience », sans chercher la cause du malaise ressenti, c'est quand même passer à côté du sujet pour moi.
Ouais. Et voir que Adam, ça a toujours été un personnage très problématique dans cette série.
Ouais.
Les recommandations
culturelles.
De quoi de neuf ?
Moi, cette semaine, j'aimerais parler de la série Younger.
Oui.
Oui, enfin de retour après des mois d'absence. Donc, c'est une série très mignonne que moi, j'adore parce qu'elle est parfaite pour l'été. Quoi. C'est un peu comme une glace à l'eau. Donc, le pitch, c'est Lisa, une femme mère au foyer new-yorkaise de 40 ans qui divorce de son mari après qu'il l'ait trompée et du coup décide de recommencer à zéro. Alors, elle cherche un emploi dans sa branche qui est l'édition, mais personne ne veut l'embaucher parce qu'elle est considérée comme trop vieille. 40 ans, c'est vrai que c'est la fin. Donc du coup, elle se résout à mentir sur son âge et à se faire passer pour une jeunette de 26 ans.
Personne ne veut embaucher une has-been de 40 ans.
Je vais avoir besoin d'un balayage.
Oh chérie, tu vas avoir besoin de beaucoup plus que ça.
J'ai décroché le poste. Ouais, j'ai 26 ans.
Donc ça marche parce que Lisa, elle est incarnée par Sutton Foster qui a été vue dans la série Bunheads d'Amy Sherman-Palladino, la créatrice de Gilmore Girls.
Ouais.
Et Lisa se fait donc relooker par sa meilleure amie qui est une artiste lesbienne à Brooklyn, un peu hype. Elle se déniche un jeune mec sexy à tatouage et elle est embauchée dans une maison d'édition qui s'appelle Empirical, qui est très glamour, où tout le monde est super bien sapé et où sa nouvelle collègue, c'est Hilary Duff. Donc c'est très très drôle. Son N+2 est très sexy, c'est un homme un peu ténébreux, très cultivé. Donc arrivera-t-elle à garder son secret ? Donc Younger, hein, c'est une série très drôle, très rafraîchissante, légère, mais en même temps assez actuelle. Ça a été créé par le mec qui a fait Sex and the City, Darren Star. Donc c'est une réflexion sur l'agisme, le couple, le sexe, l'amitié. Donc cet été, suivez les conseils de Mélanie et regardez Younger.
Ok, on le fera. Moi, de mon côté, si vous souhaitez aller au théâtre, à Paris, malheureusement, je vous conseille une humoriste qui s'appelle Laurie Perret, qui joue au République. Elle joue un spectacle alimentaire, donc comme une pension alimentaire. C'est une jeune comédienne qui joue un personnage d'ingénu, un petit peu demeuré, qui s'inspire pas mal de sa vie de mère célibataire. Elle prend souvent des voix de petite fille. Et en fait, elle mélange des sketchs et une sorte de ritournelle déglinguée.
Et quand le médecin rentre avec ses gants en plastique, Madame, installez-vous, alors on en est où? Et c'est à vous. Et ça fait 1, 2, 3. C'est le nombre de ses doigts. 1, 2, 3. Qu'il met à l'intérieur de moi.
Et elle a fait une chanson qui est déjà culte sur son épisiotomie. Où elle dit 1, 2, 3. C'est le nombre de coups de ciseaux, etc. etc. Donc c'est assez épique. Ah ouais. Ça attendait
ça. Je sais pas si t'as vu là, mais j'ai serré les cuisses beaucoup.
Non, c'est vraiment très drôle. Donc allez-y.
Allô ?
Allô ?
T'as une question ?
Quoi de meuf vous écoute ? Alors cette semaine, Hélène nous a envoyé un mail. Vous pouvez faire de même en nous envoyant un mail à hello@quoidemeuf.net. Alors bonjour, je travaille dans une grande entreprise internationale et je n'ai pas du tout entendu parler chez nous de MeToo. Pourtant, les valeurs portées par mon entreprise sont de belles valeurs, de respect des collaborateurs, de l'environnement. C'est une entreprise impliquée dans les questions de société. L'écoute du podcast Les couilles sur la table, qui sont les harceleurs au travail, a fini par me convaincre. Ce n'est pas normal, on ne peut pas faire comme si nous ne sommes pas concernés, comme si nous n'avions rien à apprendre de ce phénomène. J'ai donc écrit à ma DRH, arrivée depuis quelques mois, pour lui demander si suite à ce mouvement, des actions étaient prévues. Formation, réunion. Elle m'a invitée à venir en parler en tête-à-tête avec elle pendant une heure. Avez-vous des conseils, des chiffres ou des faits à me donner pour préparer cette rencontre ? Elle ne m'a donné aucune information sur l'objectif de cette réunion. Je ne sais pas si elle voudra parler de ce qui est prévu, de pourquoi rien n'a encore été fait, de mon initiative. Merci beaucoup.
Mais de rien. Non. Alors, c'est une très bonne initiative, effectivement, mais ça veut dire qu'il va falloir que tu impulses le mouvement, Hélène, et que ça va te demander de l'énergie. Donc, sois prête, hein, comme disait Scar dans Le Roi Lion. Effectivement, il va falloir que tu te fixes des objectifs précis pour cette rencontre. Qu'est-ce que tu veux obtenir ? Quel est le but précis de ce rendez-vous ? Même si on ne te l'a pas dit, il faut que tu le décides pour toi-même, en fait. Est-ce que tu veux que des formations soient organisées à l'issue de ce rendez-vous ? Qu'un processus de prise en charge soit mis en place par les ressources humaines, si ce n'est pas déjà le cas ? Donc, au-delà du fait de proposer tout de suite des solutions à ton employeur, je pense qu'il serait intéressant d'analyser l'état des choses, en fait, actuel dans ton entreprise. Qu'est-ce qui a été fait autour de la thématique du harcèlement sexuel ces 10 dernières années dans ton entreprise ? C'est une bonne question pour commencer. Est-ce qu'il y a eu des questionnaires ? Est-ce qu'il y a eu des sondages ? Est-ce qu'il y a eu d'autres démarches du même type s'adressant aux employés pour savoir ce qu'ils pensent du harcèlement, comment ils le vivent ? Et suite à cela, quelles actions ont été mises en place ? Donc, s'il n'y a pas eu d'action, là, tu peux tout à fait penser à les proposer.
Et est-ce qu'il y a eu des affaires aussi peut-être de...
Exactement, ouais. Voilà, savoir s'il y a eu des antécédents en fait. Donc tous les chiffres que nous on pourra t'apporter en ces quelques minutes d'émission, ça va pas remplacer la préparation. Il va falloir vraiment que tu dégaines Google, que tu fasses tes devoirs et que tu compiles les statistiques dans ton secteur parce qu'elles sont pas les mêmes selon les industries. Donc aussi dans ta région, dans la France entière, il faut que tu arrives vraiment avec des chiffres le plus possible à jour. Avec des statistiques précises sur le harcèlement des femmes en entreprise et aussi surtout sur le fait que les femmes sont en général subordonnées aux hommes dans le monde du travail. Et donc du coup, ça entraîne des déséquilibres qui sont à prendre en compte. Donc si tu veux proposer des formations, si tu aimerais à terme qu'il y ait des formations qui soient faites, il faut que tu recherches en amont des noms d'associations ou d'intervenants potentiels à proposer à ton employeur. Il ne faut pas que tu arrives en disant « bah je sais pas ». Et tu peux aussi réfléchir à des arguments plus personnels, comme ceux dont tu nous as parlé dans ton message en fait. Pourquoi cette question te préoccupe-t-elle particulièrement ? Pourquoi ça te passionne ? Pourquoi tu ressens quelque chose et tu te dis qu'il faut que ça change ? Si tu es passionné et si tu es investi personnellement, tu vas mieux réussir à convaincre tes interlocuteurs. Parce que d'ailleurs, petite note à ce sujet, que tu tombes sur un homme, on ne sait jamais, hein, la DRH peut être accompagnée, ou sur une femme, la situation peut s'avérer épineuse parce que la misogynie intégrée par les femmes, ça existe malheureusement. Et tu peux te retrouver face à des gens qui vont te dire « bah non, mais non, on n'a jamais eu de problème, non, ça n'existe pas ». Donc dans les deux cas, il va falloir peut-être faire de la pédagogie féministe basique. Donc prépare-toi psychologiquement, sois ouverte. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut arriver avec vraiment une armure, un côté chiffre et côté fait, parce que ça va jouer forcément en ta faveur. Donc tu peux à la fois jouer sur le tableau très, très factuel et en même temps dire pourquoi c'est important pour toi et pour nous en tant que société. Voilà, bon courage à toi Hélène.
Bon, on aurait encore plein de choses à dire, mais en ce qui nous concerne, on a fait le tour.
Oui.
Vous pouvez retrouver tous les liens dans la description de l'épisode.
Salut Clémentine.
Salut.
Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Vous pouvez nous retrouver chaque dimanche dans la newsletter Quoi de Meuf. Abonnez-vous sur quoidemeuf.net si ce n'est pas déjà fait.
Et vous pouvez aussi aller sur Apple Podcast et nous laisser une note, 5 étoiles de préférence, ce serait super. On est aussi sur Twitter et Instagram, sur @quoidemeuf. Et on se retrouve au prochain épisode.
Bye girl.
Girl bye.
Quoi de Meuf est une émission de Clémentine Gallo et Mélanie Wanga, produite par Nouvelles Écoutes, avec à la réalisation sonore Aurore Meyer-Mailleux, à la prise de son Maxime Olivier, au montage et au mixage Laurie Galigani.